France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Et si elle servait avant tout à ça, cette flamme olympique, si ces 69 jours de traversée du pays, c'était 69 jours dont nous avons besoin pour accueillir les JO 2024 et les accueillir avec le sourire. Car nous sommes en plein paradoxe, nous en France, il faut bien le reconnaître, les Jeux font l'objet de multiples critiques. Trop cher essentiellement, perturbation infernale à Paris, QR code pour bouger, menace de grève, sans parler des polémiques, sans que ni tête de vous à moi, Diana Nakamura jusqu'au Dôme des Invalides sur l'affiche. Tout fait polémique pour de bonnes et de mauvaises raisons. À côté de ça, les billets sont partis sur un claquement de doigts, les plus chers comme les places à 50 euros. À côté de ça, puisqu'aujourd'hui on va parler de flamme olympique, regardez l'état de la ville de Marseille qui n'a Dieu que pour le Bélème et la flamme qu'il transporte. Il y aura 10 000, 11 000 même porteurs de flamme. Plus de 100 000 personnes avaient candidaté. Alors, on le demandera à nos invités si c'est tout le temps comme ça, avant les Jeux, s'il faut attendre longtemps pour que le pays, quel qu'il soit, suive le mouvement, ou si nous sommes l'exception qui confirme la règle, si c'est aussi l'époque qui veut ça, pas facile socialement en ce moment. Est-ce que les Jeux nous le font oublier ou est-ce qu'au contraire ils appuient sur ce que ça fait, sur là où ça fait mal? On verra à quoi ça sert les Jeux dans notre pays, ce que nous disent, là pour commencer, les porteurs de flammes, sur ce que ça représente, sur ce qui est en train de commencer au moment où on se parle. Nous allons suivre ensemble les premiers mètres de la flamme puisque ça se passe en même temps qu'on se parle, l'allumage du fameux chaudron, le début du Tour de France, pourvu que la flamme tombe pas dans l'eau en sortant du Bélème. Voilà ce que j'ai à dire. C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et Nicolas Perronnet, bonsoir.
Bonsoir à tous.
C'est avec vous qu'on veut commencer. C'est vous le premier auditeur, Nicolas, en quelque sorte. Il faut nous dire où vous en êtes, parce que pour ne rien vous cacher, évidemment, je le vois à la télé, le Bélème. Je vois que Florent Manoudou est prêt, mais toujours à bord.
Il est toujours à bord, effectivement. La flamme olympique, vous l'aurez compris, est également toujours à bord. Le Bélème est en train d'accoster, de s'amarrer à cette piste d'athlétisme qui flotte sur le vieux port face au centre-ville avec Notre-Dame de la Garde sur sa droite, avec du monde partout, 150 000 personnes, c'est l'affluence qui était annoncée. Elle est sans doute atteinte ce soir au terme ou presque, puisque le clou du spectacle évidemment reste à venir avec cette descente de la flamme olympique, puis l'allumage du chaudron, on pourrait y revenir, mais au terme d'une journée qui a été à la hauteur de ce que les organisateurs voulaient en faire, c'est-à-dire une parade nautique absolument extraordinaire pendant des heures et des heures sous une météo parfaite, une mer d'huile, un ciel bleu pour accompagner avec des centaines de bateaux ce Bélème qui vient donc d'entrer dans le Vieux-Port avec deux passages de la patrouille de France. Tout cela évidemment sous les yeux du président de la République, Emmanuel Macron. Tous les appareils photos, vous l'imaginez, sont de sortie pour immortaliser cet événement. Florent Manoudou est à l'avant de ce bateau. Il est en train de saluer la foule. Il va descendre maintenant dans les minutes qui viennent pour aller transmettre ce premier flambeau à un deuxième porteur,
et oui,
peut-être
et transmettre
un troisième.
À qui alors?
C'est le secret le mieux
c'est
gardé de la journée.
Mystère.
C'est l'invité mystère. Il y en aura même d'ailleurs peut-être deux. Évidemment, tout le monde rêve ici d'un certain Zinedine Zidane. Et oui, on le saura dans quelques minutes. En tout cas, ce qui va se passer maintenant, c'est la descente de Florent Manoudou et de la flamme olympique sur cette piste d'athlétisme.
Avec la musique, qui est la musique qu'on découvre là. En fait, alors on l'a entendu ce matin sur Inter, mais qui sera celle des JO.
Exactement, c'est l'hymne des JO que la France a pu découvrir aujourd'hui, qui est diffusé en ce moment. On a eu également une Marseillaise composée interprétée à cappella par Maestro, qui lui aussi a une histoire forcément particulière, histoire marquée par la résilience. Il est passé par la casse prison. C'est un enfant de Marseille, un enfant de la Castellane. Donc pour l'instant, le spectacle est à la hauteur des attentes et tout le monde attend maintenant évidemment de savoir qui va être le premier à allumer le chaudron. Le chaudron, vous savez, c'est ce qui va clore toutes les journées de ces relais de la flamme olympique. C'est Florent Manoudou qui va descendre du Bélème, ça on le sait, mais le mystère sur qui va allumer ce chaudron va être levé dans les toutes prochaines minutes.
Et ben,
tout le monde attend ça ici avec grande impatience.
Et ben oui, mais absolument, et vous nous le raconterez, Nicolas. Merci beaucoup, merci de nous aider à être aux premières loges. Je vais vous présenter les invités qui sont autour de cette table et qui resteront avec nous jusqu'à 20h, puisque... Encore une fois, c'est pendant le téléphone sonne que vraiment les choses se passent. Vous pouvez bien sûr aussi nous appeler. Avec nous en studio, il y a Ali Ramdan. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur au CERU, le Centre d'études et de recherche olympique universitaire. Il n'y en a qu'un. Vous y travaillez, il est unique en France. Vous êtes prof aussi. Vous étudiez les JO au sens large et aussi ce que ça amène, y compris aux enfants, aux collégiens, aux lycéens. On y viendra ensemble. Il y a Marie Bauchet qui est avec nous également. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancienne championne paralympique de ski de bosse, là pour le coup c'est les Jeux d'hiver, mais flamme quand même, vous serez l'une des consultantes de Radio France pour ces Jeux, on est ravis de vous avoir avec nous, Marie Bauchet. Ali Ramdan, est-ce que vous avez vu comme moi qu'on a échangé la flamme de Florent Manaudou? Est-ce que ça veut dire qu'il faut se méfier? Est-ce que ça s'éteint, ce genre de choses?
Alors, effectivement, elle peut s'éteindre. Hein. Je pourrais même vous expliquer quelques cas mythiques où la flamme a disparu. Alors, pas quelques instants, elle a disparu complètement.
Ah.
Mais normalement, parce que je veux positiver, la flamme et la torche est conçue pour qu'elle ne s'éteigne pas. Elle peut résister au vent, à la neige.
Donc s'il tombe subitement un orage parce que le ciel de Marseille menace un peu, s'il tombe des sauts d'un
drôle,
coup...
Hein.
Non, ben non.
Mais on n'a pas du tout envie que Florent Manaudou glisse et tombe dans la Méditerranée, donc ça n'arrivera pas et la flamme restera allumée.
Alors après, on y reviendra au fil de cette émission, mais on a bien entendu qu'il allait y avoir une sorte d'invité mystère. Et c'est le cas pour le coup à chaque arrivée de flamme, hein, Ali Ramdan, il faut maintenir non seulement une forme de suspense, mais surtout il faut jouer les symboles, et c'est ce qu'on voit dans ce relais-là. Il y a plein de symboles pendant 69 jours, le premier a un sens particulier probablement.
Oui, alors évidemment, la ville de Marseille n'est pas choisie au hasard. Il y a la ville de Marseille et puis il y a aussi ce 8 mai, alors permettez-moi juste d'inciter sur ces deux éléments. Marseille, Marseille pour le latin ou les grecs, c'est Massalia, c'est Massilia, c'est fondé 600 ans avant Jésus-Christ. C'est un explorateur grec de l'Antiquité qui vient sur cette calanque. On lui offre cette calanque parce qu'il va se marier avec la fille du roi local. Et Marseille, c'est aussi une rade magnifique où l'équipe de France de voile est installée depuis 1996. Donc évidemment que, comme dit Tony Estanguet, Marseille coche toutes les cases. Voilà. Donc c'est vraiment un symbole. Et aujourd'hui, on est le 8 mai 2024. Mais le 8 mai 2024, donc il y a quelques années, rappelez-vous, c'est le Belém qui amène aujourd'hui la flamme olympique. Et le Belém a failli disparaître, englouti par l'éruption du mont Pelé en 1902. C'était déjà un 8 mai. Et comme il n'a pas pu mouiller au large de la Martinique, qui était un peu plus lointain, il a pas coulé. Et aujourd'hui, il est là. Donc il y a beaucoup de symboles. Et voilà, c'est ça.
On viendra aussi aux autres. Je garde un œil sur la télévision pour voir ce qui se passe. Et donc, si on voit ce nouveau symbole et invité allumer le fameux chaudron, Marie Bauchet, vous, ancienne championne paralympique, moi, je voudrais savoir ce que ça fait, en fait. Est-ce que, quand on est championne, et au fond, quel que soit le sport, vous, c'est le ski de bosse, hein, on n'est pas dans les Jeux d'été, est-ce que ça, vous le regardez comment, avec quel genre d'émotion ?
Alors je fais du pari à ski alpin. En paralympique, il n'y a pas de ski de bosse.
Ah bah, et ben alors bravo.
je reprécise au cas où certains pensent que je me reconvertis dans une autre discipline. Mais non, c'est un symbole qui est énorme, la flamme sur les Jeux pour les athlètes. C'est voilà, le moment où la vasque s'enflamme à la cérémonie d'ouverture. C'est vraiment le moment où on lance les Jeux. C'est un moment qui est très émouvant, qui est très très fort, c'est très symbolique. Et voilà, c'est tout ce pèlerinage aussi en amont qui rassemble les personnes du pays organisateur, les habitants du pays organisateur. C'est très symbolique.
Et est-ce que vous vous dites aussi, on posera la question également à Ali Ramdan, est-ce que vous vous dites, Marie Bauchet, c'est aussi maintenant que peut-être le pays s'enflamme aussi, parce que il faut pas se le cacher, c'est long l'enthousiasme. Est-ce que vous espérez que ce moment soit maintenant? Est-ce que vous vous dites au fond, ça viendra, il faut pas s'inquiéter de ça?
Alors, j'ai entendu Tony Estanguet ce matin sur votre antenne qui disait justement qu'en fait l'arrivée de la flamme était vraiment le début des jeux, et je pense qu'effectivement c'est le moment qui lance les jeux populaires. Je pense que voilà, tous ceux qui sont un peu extérieurs au dossier ont du mal à percevoir l'ampleur du projet, et c'est voilà, on en entend que des brides, mais là en fait voilà, on rentre vraiment dans cette période de jeux olympiques et paralympiques en France quand la flamme commence son parcours sur le territoire, et donc oui, les jeux pour les Français, je pense qu'ils vont commencer dès aujourd'hui avec le début de ce relais-là, et ça c'est certain que voilà, jusque-là les jeux étaient loin, et en fait quand la flamme est sur le territoire, c'est qu'on s'en rapproche et on décompte les jours encore plus précisément.
Marie Bauchet, on va revenir vers vous dans un petit instant, mais je voudrais qu'on retourne retrouver Nicolas Perronnet sur le Vieux-Port, parce que ça y est, on le voit descendre, Florent Manaudou, donc la fameuse piste, fausse piste olympique entre le Bellem et le Vieux-Port, il est quasiment dessus.
Ouais, il est quasiment dessus, Florent Manaudou. La torche olympique dans sa main gauche est en train de descendre de ce Bellem sur son tribord, sur son côté droit, avec évidemment les acclamations de la foule, comme vous l'imaginez bien.
Et comment l'image on l'entend
est assez fantastique, hein, de ce Bellem qui est amarré sur cette piste d'athlétisme flottante. Et voilà la première. C'est Antonin Keita, voilà la première surprise pour prendre cette flamme olympique sur ses premiers mètres. Antonin Keita, qui est une para-athlète qui va participer évidemment à ces jeux, qui a pris le flambeau dans sa main, qui est en train de remonter vers la terre ferme, si on peut dire, parce que pour l'instant cette flamme est toujours sur cette piste d'athlétisme flottante, et on va savoir bientôt à qui ce symbole va être donné pour aller allumer le chaudron. Alors on essaye tous de savoir de qui il s'agit, parce que alors ce n'est pas Zinedine Zidane a priori, parce qu'en tout cas il a la tête recouverte. Je dis il parce que c'est un homme, ça c'est une certitude. Tout le monde a les yeux rivés sur les écrans, se demandant qui c'est. Ben voilà, c'est une surprise, on nous l'annonçait, cette surprise. Et on n'a pas la réponse.
Mais oui, parce que voilà. Moi, je vois bien qu'il a sa capuche sur la tête.
Voilà, sa capuche sur
le
la
fourbe.
Tête. Ouais, ouais, ouais. Alors, ce n'est pas ni la démarche de Zidane, ni le sourire de Zinedine Zidane. Il va l'enlever, sa capuche. Et c'est Jules, l'autre icône de Marseille, qui va aller allumer ce chaudron. Bah voilà, c'était l'autre rumeur qui bruissait sur le Vieux-Port, qui fait son fameux signe avec les deux doigts. Vous savez, oui. Vous connaissez forcément Jules, en tout cas tous ceux qui ont des enfants le connaissent. C'est l'icône de Marseille qui est en train d'allumer ce chaudron, lui qui a l'habitude de remplir le Vélodrome, le rappeur Jules, qui est en train de l'allumer. Voilà qui est fait. Eh bien, on attendait peut-être beaucoup, en tout cas Zinedine Zidane. C'est Jules qui allume ce chaudron, qui se retourne vers la foule avec des canons à nouveau pour donner le coup d'envoi officiel, j'allais dire, des Jeux en France. Oui, parce que c'est un peu le sentiment qu'on a ce soir. La flamme olympique, ça y est, est sur le sol français avec les feux d'artifice, les canons qui entourent désormais de brume le Bellem. Et donc la surprise, on l'a eu, il y avait la capuche en plus pour l'invité mystère, Antonin Keita dans un premier temps, et le rappeur Jules, donc pour Fabienne donner le coup d'envoi de ce relais de la flamme qui commencera réellement demain dans les rues de Marseille.
Et on y reviendra. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait vivre ça en direct, Nicolas Perronnet, pour Antonin Keita. Tiens, je vous le dis, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une athlète paralympique. Elle est elle est championne du monde du 400 mètres malvoyant en 2006. Elle est médaille de bronze sur 400 mètres aux Jeux paralympiques de 2008. Elle est médaille de bronze sur 100 mètres aux Jeux paralympiques de 2012. Championne paralympique du 400 mètres aussi aux Jeux paralympiques de l'été 2016 à Rio. Et puis Jules, bien sûr, Jules le rappeur. Ali Ramdan, c'est intéressant, Jules. pour la ville de Marseille. Mais encore une fois, on va y venir à l'engouement sur les Jeux. La popularité de ce garçon est immense. Pour l'engouement que ça représente, pour le fait que c'est pas que une histoire de sportif, c'est l'histoire de chacun. Il y a tout ça peut-être dans ce choix-là.
Alors, évidemment, on apprend en direct que ces Jeux, on pouvait imaginer plein d'autres personnes, mais l'ambition du comité d'organisation de Paris 2024, c'était de créer des Jeux populaires. Et effectivement, le choix de Jules s'inscrit dans cette lignée-là. On a voulu mettre en valeur la culture populaire, la musique, et aussi, il faut bien le dire, la musique urbaine, parce qu'il représente la jeunesse, il présente cette musique qui, parfois, n'est pas acceptée totalement comme un art, même si aujourd'hui, les choses ont changé. Donc, le choix de Jules, c'est symbolique.
Et en tout cas, un joli symbole, et on l'a vu ici avec nous. Marie Bauchet, qu'est-ce que vous en dites, vous, de ce choix-là, de ces deux derniers porteurs de flammes avant le chaudron?
Je trouve que même les trois porteurs de flammes sont très symboliques, avec Laurent Manaudou, athlète olympique, Nantonin qui est athlète paralympique, avec un artiste aussi populaire. C'est vrai que voilà, c'est aussi ça le relais de la flamme, c'est aussi cette occasion de faire partager les valeurs du sport au plus grand nombre et permettre d'attirer un maximum de Français autour de cette belle fête.
Merci beaucoup Marie Bauchet, vous restez bien sûr avec nous. Juste avant l'intervention de Nicolas Perronnet, Ali Ramdan, on demandait à Marie Bauchet si elle pensait que c'est le moment où les gens allaient pouvoir s'approprier ces Jeux Olympiques, et on le verra au fil de cette émission avec nos appels, c'est compliqué pour les gens et on peut l'entendre. Est-ce qu'on a l'exception qui confirme la règle, Ali Ramdan, ou est-ce que c'est toujours comme ça avant les Jeux?
Alors, les Jeux Olympiques ont eu du mal à s'installer, c'est dans son essence, voilà, c'est comme ça. Mais depuis maintenant une cinquantaine d'années, c'est un événement sportif le plus important au monde qu'on attend. Aujourd'hui, la donne a changé parce qu'on est plus concerné par des faits de société, par des enjeux écologiques, financiers, et évidemment, tout est conjoncturel. Aujourd'hui, on a entendu beaucoup de choses sur l'aspect négatif de l'organisation des Jeux Olympiques, mais je peux vous assurer que ce qui va changer, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, elle arrive. Et c'est symbolique, elle est sur le sol français et l'engouement va commencer parce que localement, toutes les villes qu'elle va traverser, 400 villes, 65 départements, inévitablement, il y a des gens qui vont s'impliquer, et pas uniquement des gens, des illustres sportifs, il y a aussi des inconnus. Et c'est ça qui va créer l'engouement. Il le faut.
Vous nous faites une transition en or. Bonsoir Naïg.
Bonsoir.
On vous écoute Naïg.
Oui, moi j'ai 17 ans et j'habite en Gironde et c'est avec joie en fait que je fais partie du relais autour de Bordeaux et en fait pour moi c'est l'occasion vraiment en tant que grande amoureuse du sport de partager les valeurs comme le respect, la solidarité ou le fair play, même si je perds pas de vue l'aspect marketing et politique que j'ai appris en grandissant autour de cet événement et qui me rend assez sceptique. En tout cas, j'espère qu'on ne perdra jamais l'esprit du sport, mais merveilleusement incarné par tous les sportifs, qu'ils soient professionnels ou du dimanche.
Comment vous vous êtes débrouillée, Naïg, pour vous retrouver porteuse de flamme?
Eh bien, j'ai vu passer l'information et j'ai candidaté. Il fallait écrire pourquoi est-ce que on voulait faire porter la flamme voilà, moi j'avais écrit un petit texte et j'ai été sélectionnée sur les deux tours.
Et encore une fois, on va pas évacuer ce sujet au cours de cette émission sur la difficulté de l'engouement. Moi, je me demande, Naïg, autour de vous, si les gens vous disent plutôt « t'as une chance de dingue » ou s'ils vous disent « qu'est-ce que tu viens faire là-dedans ?»
C'est vrai que on pourrait penser qu'il y a un côté négatif, mais franchement, non. Pour l'instant, il n'y a que du positif, et surtout que mon père a aussi été porteur de la flamme. Donc, pour moi, c'est l'occasion de continuer cette sorte de tradition, si on peut dire. Mais non, franchement, c'est un honneur, et tout le monde est plutôt content pour moi. Oui.
J'imagine. Votre père l'a porté à quel moment?
Je m'en rappelle plus, mais il était en Corse à ce moment-là, il avait 17 ans comme moi aussi.
Écoutez, vous avez de la chance dans cette famille d'être des porteurs de flammes. On vous remercie beaucoup Naïg de votre intervention dans le téléphone sonne. Ali Ramdan, 11 000 porteurs de flammes. 11 000, ça veut dire qu'on le disait, il y aura plein de symboles, il y a plein de noms que j'ai là devant moi. Enfin, il y aura Thomas Pesquet, il y aura des grands sportifs, mais il y aura plein de Naïg aussi. Et ça sert à ça, la flamme.
Exactement, parce que je reviens toujours à ces jeux populaires. Évidemment, les Jeux Olympiques, c'est plusieurs dizaines de championnats du monde organisés en même temps. Il faut quand même imaginer. Mais ce qui est important, c'est que la famille du sport, c'est pas uniquement les sportifs. Aujourd'hui, c'est une grande famille. Tout le monde est concerné par le sport. Et il y a beaucoup de Français qui pratiquent du sport, en associatif ou pas, mais en tout cas qui sont concernés par toutes les activités. Et c'est ça qu'on veut mettre en valeur, c'est que tout le monde a envie de s'investir. Et ce que vient de dire l'auditrice, c'est que, évidemment, je ne suis pas étonné, tout le monde lui souhaite bonne chance, tout le monde lui dit « tu as de la chance ». C'est ça qu'il faut garder, c'est un message positif.
Est-ce qu'on essaie de l'arrêter, la flamme, sur son parcours ? C'est arrivé parfois, oui. C'est un vrai risque ou pas ?
C'est un vrai risque.
De l'eau pour l'éteindre, par exemple.
Alors, c'est vraiment un vrai risque. Elle est surveillée nuit et jour, oui, par au moins 11 personnes. Et ces 11 personnes, hein, c'est pas des rigolos, hein, c'est, oui, l'armée, la police, les gendarmes. Donc, vous allez le voir, tout au long du parcours, il y a des gens qui vont courir autour d'elle pour la protéger. Alors, c'est arrivé, hein, soit maladroitement par les conditions météorologiques, oui, des violents orages à Montréal en 76. C'est arrivé par des vents violents à Athènes en 2004. Parfois, c'est le matériel. Il y a un brûleur qui a été défectueux à Londres 2012.
C'est ballot.
Ah bah oui, ça arrive. Hein. Ensuite, c'est cocasse. Hein. À Sochi, pour les Jeux Olympiques d'hiver en 2014, la flamme s'est éteinte. Alors, hein, ironie, devant le Kremlin. Voilà, okay. Voilà, je m'arrête là. Et en France, c'est arrivé. Rappelez-vous, pour les Jeux Olympiques de 2008.
Pékin.
À Pékin, et alors à Paris, à Istanbul et dans d'autres villes, hein, il y a des manifestants qui voulaient absolument éteindre la flamme parce que elle transmet un message de paix, et ces gens-là pensaient que c'était en inadéquation avec ce qui se passait.
On s'en souvient, il y avait, voilà, RSF aussi derrière, mais exactement. Est-ce que c'est pas d'ailleurs après parce que à ce moment-là, c'était les JO de Pékin et la flamme faisait le tour des continents. Est-ce que c'est depuis les JO de Pékin que la flamme fait plus le tour des continents? Alors, qu'elle s'arrête, enfin qu'elle commence et qu'elle s'arrête, enfin qu'elle va de Grèce évidemment et qu'elle s'arrête dans le pays.
Alors, elle est née à Olympie. Elle va à Athènes au stade panathénaïque, oui. Et ensuite, c'est le comité d'organisation du pays qui décide. Et effectivement, peut-être que on fait attention au parcours, mais il n'y a pas de règle. Chaque comité d'organisation fait comme il le souhaite. En France, c'est on décide d'aller voir tous les territoires, voilà. Donc 400 villes. Voilà.
Delphine Labaïs, bonsoir.
Bonsoir.
On est ravis de vous avoir avec nous, vous êtes maire de Périgueux. Et vous allez la voir, la flamme, il faut nous expliquer comment ça se passe d'ailleurs, parce que on sait que ce sont les départements qui se portent volontaires, et c'est aussi eux qui payent, hein, parce que ça coûte cher, 180 000 euros. Après, est-ce que c'est vous qui dites à Périgueux, vous levez la main en disant « ah ben, puisque vous l'avez, moi je l'avais chez moi », comment ça se passe ?
Alors c'est un petit peu des deux, puisque concernant les villes-préfectures, il faut que ce soit vraiment un binôme, un département, une ville-préfecture, pour accueillir la flamme, puisqu'elle termine son parcours dans le département sur un site dit de célébration et que celui-ci doit être dans une ville-préfecture. Mmh. Et puis ensuite, pour les autres villes, notamment qui seront traversées en Dordogne, eh bien les maires, oui, ont levé la main en disant « on en est et on souhaite qu'elle puisse passer par chez nous ».
Et est-ce que vous aussi, vous avez dû expliquer à vos administrés « c'est une fête, allons-y », est-ce que vous avez au contraire eu des réponses qui disaient « mais pourquoi faire ?» Comment ça s'est passé à Périgueux ?
Alors nous, on a plutôt un engouement autour de l'arrivée de cette flamme depuis d'ailleurs que l'information a été partagée par la presse locale. Nous avons d'abord le mouvement sportif qui est fortement mobilisé et qui tout de suite nous a contactés pour dire bah, on veut participer à cette aventure. Et puis nous avons eu besoin de nombreux bénévoles pour l'organisation et la sécurisation de la manifestation et nous les avons trouvés de manière sans aucune difficulté. Donc on a plutôt un engouement local en termes d'organisation, tant par le mouvement sportif que des bénévoles dans la ville qui veulent s'engager pour accueillir cet événement qu'ils reconnaissent comme étant unique dans la rue.
Ce sera le 22 mai hein, chez vous.
C'est bien ça.
Est-ce que vous savez si certains de vos voisins ont boudé la flamme ? On dit non, parce qu'il y en a hein, en France qui ont dit non dans les villes et les départements.
Alors, au vu des nombres qui sont annoncés, en effet, j'ai cru comprendre que certains avaient dit non. Je n'en ai pas connaissance. Nous, c'était plutôt l'inverse. En Dordogne, il y en avait plus de communes qui voulaient accueillir la flamme que la flamme que la possibilité de l'accueillir. Donc, on était plutôt dans l'engouement inverse.
Eh bien, Delphine Labaïs, merci beaucoup. Maire de Périgueux, donc pour vous, ce sera le 22 mai, parce qu'il faut rappeler quand même qu'il y a une espèce de mini tour de, enfin, pas mini, maxi tour de France d'ailleurs, et puis ensuite, depuis Brest, un bateau emmène la flamme qui doit traverser la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion, la Polynésie, la Guadeloupe, évidemment, la Martinique. Ali Ramdan, est-ce qu'il y a eu beaucoup de refus?
Oui, je voulais apporter une précision. Effectivement, il y a 64 départements qui ont dit oui tout de suite, évidemment, et puis il y en a quand même 37 qui ont refusé. Alors, pas catégoriquement, hein, au vu de la somme qui était demandée, 180 000 euros.
Ce qui est aussi inédit.
Oui, c'est quand même, voilà. Alors évidemment, c'est un quart de ce que ça coûte. Hein. Les trois quarts sont payés par le COJO, mais on demandait quand même une participation, j'allais dire symbolique, mais 180 000 euros, c'est pas symbolique, c'est quand même un coût. Et il y avait d'autres missions qui étaient plus importantes pour les départements, et donc elles ont fait le choix. Et par contre, sur les 37, je voulais dire qu'il y en a quand même quatre départements qui vont quand même être traversés. Donc ça veut dire que le comité d'organisation a pris en charge entièrement. Parce que c'est par rapport au parcours, il devait passer là.
Ou que quelquefois, certaines villes ont pris les choses en main, puisque le département disait non, la ville a dit moi je veux y aller, donc du coup la ville l'a fait, mais c'est vrai que le Rhône a dit non, la métropole de Lyon a dit non. Et si je les cite, c'est parce que le Rhône c'est LR et la métropole de Lyon c'est Europe Écologie Les Verts, donc c'est pas que une histoire de positionnement politique, hein, on en trouve dans les deux bords, mais
oui,
ça existe.
Oui, puis j'ai d'autres exemples aussi, la ville de Bordeaux a pris en charge aussi cet événement, la ville de Montpellier, 7 MIO se sont joints pour assurer cette organisation alors que le département avait refusé. C'est le cas aussi de la Baule.
Et ben voilà,
pour oublier personne.
Quoi, voilà, comme quoi les choses ne sont pas toujours faciles et toujours évidentes pour chacun. J'aimerais bien qu'on puisse avoir un auditeur ici, j'en vois un, qui est à Bordeaux, qui s'appelle Jean, mais il manque juste le fait d'appuyer sur un petit bouton pour que je le vois apparaître. Et ben le voilà. Jean, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Jean, allez-y.
Oui, mais non, j'avais fait une remarque toute simple.
Mais je vous en prie.
J'ai appelé à ce sujet, c'est que voilà, moi je suis quelqu'un qui a toujours fait du sport, j'adore le sport, mais je trouve que les Jeux Olympiques à notre époque, c'est totalement déplacé en termes de coût économique, également le coût écologique, et puis voilà, on est un pays où on a une dette abyssale de plus de 3 000 milliards de, et là on va faire des Jeux qui vont aussi coûter beaucoup d'argent. Bon, et certes, il y a beaucoup de professions qui vont se retrouver, il va y avoir des retombées économiques, c'est un fait, mais je trouve que c'est à la limite de l'indécence. C'était ma remarque, et pourtant, je vous dis, j'ai été sportif, j'adore le sport, mais voilà, je trouve que c'est déplacé.
Eh ben, vous n'êtes pas tout seul, hein. C'est pour ça qu'on a voulu vous entendre, Jean, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont sur le même registre que vous, sur le fait que c'est trop cher et que ça n'est plus, c'est ce que je vous ai entendu dire, c'est désormais daté ce genre de grande réunion. Marie Bochet, vous, la championne paralympique, qu'est-ce que vous répondez à ce genre d'argument? On peut plus aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, faire des événements de cette ampleur-là?
Je réponds que je pense qu'il y a effectivement une prise de conscience aussi de la part des organisateurs, du CIO, de l'IPC, sur ces notions-là, et que aujourd'hui les Jeux sont en train de vivre leur transformation aussi, parce que il y a cette prise de conscience évidente, et donc les modèles des Jeux sont en train d'être réinventés, et que Paris notamment fait partie des premières villes à accueillir les Jeux et qui construit très peu d'infrastructures. Ça va être le cas aussi sur la candidature des JO de 2030. Voilà, cette notion elle est prise en compte de plus en plus, et évidemment on peut pas ne pas s'en rendre compte, et en tout cas on peut pas ne pas agir dans ce sens-là. Et je pense que toutefois les Jeux, c'est quand même un moment qui rassemble, et c'est des événements dont on a besoin aujourd'hui, et donc voilà, les Jeux ont besoin de vivre une transition, et je pense qu'ils sont en train de la faire.
Et tout, ce qui compte aussi, c'est ce qu'on appelle l'héritage, Ali Ramdan, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il en reste derrière, pour le coup, Marie Bochet, qui est championne paralympique. On sait que notamment, si tout va bien, et on attend de voir, effectivement, mais notamment en termes d'accessibilité, etc., on est censé faire d'immenses progrès, on espère que ce sera le cas, évidemment, pour ces Jeux.
Alors, à mon tour, merci pour la transition, parce que je voulais aborder cet héritage, hein, évidemment, on parle d'héritage immatériel comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on aura le souvenir de ce partage, on aura en mémoire. Mais il y a aussi, et ça, il ne faut pas le nier, un héritage matériel. Les infrastructures sportives vont rester. Très peu d'installations ont été créées, mais elles ont été rénovées. Et moi, là où je voudrais appuyer, c'est qu'il y a des transports qui ont été créés, et notamment sur l'accessibilité. J'ai parlé avec de nombreux parasportifs, et aujourd'hui, ils se satisfont, alors pas tout, mais il y a beaucoup de stations qui sont maintenant utilisées par des fauteuils, par les personnes PMR. Ce n'était pas le cas. Donc, il y a aussi des avancées. Et je suis d'accord avec l'auditeur de Bordeaux qui aimait le sport. Donc, je trouve qu'il a un discours cohérent. Mmh. Il aime le sport, ça coûte cher, mais il y a tout un héritage. Et je pense qu'il faut quand même continuer à les organiser. Mais il y a une réelle prise de conscience qui est en train d'émerger. Et les jeux de 40 ans, je pense qu'ils ne ressembleront pas à ceux d'aujourd'hui.
Et les réinventer, c'est ce que disait voilà. Marie Bochet. Il y a quelque chose à réinventer autour des jeux, autour de tous les grands événements sportifs, au fond, ou pas ?
Oui, c'est un coût considérable. Alors évidemment, c'est du soft power. Hein. Les pays ont besoin, utilisent les Jeux Olympiques pour rayonner. Mais pas que, parce que ça permet aussi au peuple de pouvoir montrer leur patrimoine et d'échanger. Je vous rappelle quand même que dans quelques semaines, le monde entier sera sur le territoire français. Il faut imaginer la symbolique. Il y a une personne de chaque pays qui sera en France.
Ali Ramdan, vous êtes également professeur et vous utilisez l'Olympisme dans votre travail, notamment pour essayer d'apaiser les tensions dans les écoles, les collèges, les lycées. Est-ce que ça marche ? Est-ce que vous avez vraiment le sentiment, auprès des élèves qui sont les vôtres, que les jeux sont facteurs d'apaisement de tensions ?
Alors oui, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser l'éducation olympique pour pouvoir travailler les valeurs. Les valeurs, j'en parlais tout à l'heure, le respect, l'amitié et l'excellence. On voit aujourd'hui, lorsque l'on traite ces questions-là, que les élèves sont attentifs parce que l'Olympisme, ça permet d'étudier en prisme. On peut parler en français, on peut en parler en histoire, en géographie. Et moi, ce que j'aime bien, c'est justement ne pas en parler tout de suite par l'activité physique. On a trop vite tendance à penser que l'Olympisme, c'est les JO. Non, l'Olympisme, c'est autre chose.
Et en matière d'histoire aussi, il y a une question qui est venue sur l'appli WhatsApp qui dit pourquoi est-ce qu'il y a cette tradition de la flamme ? Enfin, elle a été inventée au moment des Jeux de 1936. Et ceux de 1936, c'est les Jeux d'Hitler quand même. Donc et oui. Pourquoi ?
Alors, je vous
pourquoi
explique.
Pourquoi, Ali Ramdan ? Répondez.
Oui, je vais répondre. Allez, on y va. Au début de l'organisation des Jeux Olympiques, chaque ville hôte a apporté sa pierre à l'édifice de la cérémonie d'ouverture. Elle a évolué. À Anvers, en 1920, c'est le premier serment olympique. À Paris, en 1924, d'ailleurs, c'était pas Paris, c'était à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, premier village olympique qui accueille les athlètes. Ensuite, Amsterdam, et c'est là, Amsterdam, pour la première fois que la flamme olympique arrive dans le stade. D'accord ? Il y a aussi le défilé de la Grèce en premier, elle défile en premier. Et en 32, il y a le premier podium avec les hymnes. Et là, on y arrive, effectivement, en 36. Il faut parler de Karl Diem.
C'est le dernier porteur de la flamme.
Alors, ouais. Karl Diem, c'est un universitaire et un théoricien du sport. Il arrive à convaincre Goebbels et Hitler de l'intérêt de créer un relais. Alors, je veux relativiser parce qu'il a eu cette idée là, qui finalement s'est pérennisé, mais il a utilisé une course antique. C'était les lampadromies, ce que l'on voyait dans les amphores, dans les vases. On voyait des personnes tenant un flambeau et se passer le flambeau. Donc il s'est inspiré de ce qu'il a vu dans les peintures pour se dire pourquoi on ne ferait pas ça. Et effectivement, on est obligé de reconnaître que c'est à Berlin, en 36, qu'il y a le premier relais de Olympie à Berlin.
Et est-ce qu'on renonce pour y revenir en 48 ? Ça se passe comment en fait ? Où est-ce que désormais cette tradition post 36 va rester ?
Oui, elle restera. Pourquoi ? Parce que en 48, on appelait ça le relais de la paix. L'Europe est en train de se reconstruire. On sort de la Seconde Guerre mondiale et effectivement, il faut faire. Et pourquoi on utilise ce relais ? Le premier relayeur, c'était un militaire. Et comme la flamme, c'est un message de paix. Quand il a reçu la flamme, il a retiré son uniforme de militaire pour être en civil, symboliquement, et il a couru. Donc, c'est pour ça que le défilé s'est installé et on l'a gardé.
Tout à l'heure, avant la fin de l'émission, vous nous raconterez les Jeux de Séoul quand même, parce qu'on
a rigolé tout à l'heure.
C'est mal, c'est pas bien, on va recevoir du courrier. Mais enfin, tout de même, Antoine est à Lyon. Bonsoir Antoine.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu Antoine.
Merci. Oui, je pose ma question.
Ah oui, allez-y.
Ah, d'accord. Je voulais juste savoir qu'est-ce qui a été mis en place cette année pour valoriser les Jeux paralympiques par rapport aux éditions précédentes, puisqu'en général, on a une vraie différence en termes de public mm-hmm. et d'intérêt vis-à-vis de ces Jeux.
Et c'est une réalité parce qu'en termes de billetterie, notamment, il y avait toujours des places à prendre aux Jeux paralympiques, beaucoup moins pour les valides. Marie Bauchet, est-ce qu'on peut répondre à la question d'Antoine ?
Oui, alors on l'a vu à Londres, la billetterie paralympique est forcément boostée par les Jeux olympiques qui précèdent. Donc la billetterie va forcément connaître un petit rebond grâce aux Jeux olympiques. Mais il y a des parallèles qui sont faits entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques qui n'ont jamais été faits avant. Et je pense notamment déjà à la deuxième relayeuse sur le sol français. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie identité d'équipe de France. Aujourd'hui en France depuis quelques Jeux où justement on essaye au maximum d'associer les athlètes olympiques et paralympiques et donc on médiatise de plus en plus les athlètes dans tous les territoires terres de jeu aussi. Il y a eu beaucoup de travail de fait de sensibilisation autour des pratiques paralympiques, des initiations. Il y a pas mal de choses qui sont mises en place pour qu'on parle plus des Jeux paralympiques, qu'on médiatise plus les Jeux paralympiques. Je pense aussi aux partenaires qui aujourd'hui font des teams d'athlètes mixtes, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Aujourd'hui, il y a presque une parité. Alors, on parle beaucoup de la parité homme-femme, mais il y a aussi une parité olympique-paralympique qui est aussi en train d'être créée. Donc voilà, il y a une prise une vraie prise de conscience, encore une fois, et une vraie volonté de mise en avant. Il va y avoir aussi pas mal de choses qui vont être mise en place entre les Jeux olympiques et Jeux paralympiques aussi pour garder cette énergie. Et on parlait de la billetterie tout à l'heure, mais il y a des super packs pour découvrir des packs famille, des packs découvertes de billets pour découvrir les disciplines paralympiques qui sont accessibles en termes de prix et qui peuvent permettre aussi aux familles d'y aller. Donc voilà, il y a des choses. Il faut vraiment se pencher sur la billetterie parce qu'il y a des choses qui sont très intéressantes qui peuvent vous permettre de découvrir de belles disciplines et surtout de profiter de belles performances parce qu'aujourd'hui les athlètes paralympiques nous offrent des performances extraordinaires.
Absolument, et vous faites bien de le rappeler, Marie Bauchet. On va le surveiller d'ailleurs pour voir effectivement ce qui se passe à la fois pendant sur la billetterie pendant les paralympiques, mais sur aussi cet héritage. Vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, j'ai trois choses très rapidement. Jeux olympiques et Jeux paralympiques, aujourd'hui ils ont le même flambeau, alors qu'avant il y avait deux torches. Ils ont le même logo et ils ont aussi la même affiche. Voilà.
Et effectivement, c'est tant mieux. On va retrouver Nicolas Perronnet dans un petit instant. Je voudrais quand même que vous nous racontiez Séoul.
Alors,
c'est mal.
Séoul, c'est
mais
pas
comment
drôle.
Comment on a parlé tout à l'heure.
Mais vous risquez d'avoir des appels.
Je vais avoir des appels.
Fabienne, hein.
Mais alors, ça aussi, c'était. Il y a eu à un moment, à l'arrivée de la flamme, pour le coup, une tradition qui était d'envoyer des colombes en même temps qu'on allumait la vasque, pour le coup, à l'arrivée. Depuis Séoul, on arrête de faire
ça. On a arrêté parce qu'effectivement, lorsqu'on a fait le lâcher de colombes, on a allumé la vasque. Et il y a parmi le groupe de colombes, un groupe qui a complètement grillé en passant au-dessus de la vasque. Et donc du coup, c'était un moment visuel et ça a été choquant au stade, visuellement.
Choquant au stade, choquant pour chacun, les associations qui s'en sont mêlées à juste titre.
Voilà.
Et depuis, donc du coup, on allume depuis, d'abord.
Voilà, on a d'abord changé l'ordre, c'est-à-dire qu'on lançait, voilà, on allumait d'abord la vasque et ensuite on lâchait les colombes parce que les colombes n'allaient pas se lancer vers la flamme. Et après, on a complètement arrêté ce lâcher de colombes et ça n'existe plus.
Voilà. Écoutez, il y en aura pas. En revanche, le dernier porteur de la flamme, on le connaît pas non plus. Ça aussi, c'est un mystère et ce sera le moment de l'arrivée de la flamme. Je vous vois fouiller dans vos notes, parce qu'il y en a eu des beaux quand même.
Bah voilà, évidemment. Porteurs. Alors évidemment. Celui dont se souvient, c'est Mohamed Ali en 96.
Hein. Ouais. Voilà, il y a déjà le Parkinson, c'est compliqué Parkinson, pour lui, l'image
bouge,
est magnifique.
Voilà, effectivement. Ouais. Alors, il y a aussi à Sydney, Cathy Freeman qui marche sur l'eau et qui va allumer la vasque, qui représente le peuple aborigène. Ouais. Voilà, il y a donc d'illustres. Et là, on se demande qui va allumer. Moi, j'ai un vœu, si je peux permettre.
Allez-y.
J'aimerais bien que ce soit un enfant, une fille et un garçon, qui soient deux. Qui représente la jeunesse, un garçon, une fille.
Ben on va les appeler.
Inconnus.
Merci beaucoup, Ali Ramdan. Je voudrais qu'on termine avec vous, Nicolas Perronnet. Vous êtes encore là ?
Je suis là, tout à fait.
Racontez-nous, alors maintenant que le chaudron est allumé, maintenant qu'on a vu les premières images, qu'est-ce qui se passe à partir... Alors, il y a le concert, évidemment, ce soir.
Oui.
Et à partir de demain, il se passe quoi avec cette flamme ?
Alors déjà, le chaudron, il va rester allumé hein, pendant le concert qui va débuter tout à l'heure. Ce sera encore des acteurs de la scène hip-hop, hein, Soprano et Alonso, scène hip-hop marseillaise, voilà. Comme Jules.
Puisque Jules est là, j'allais dire, il a quand même profité.
Tant qu'à faire, autant réunir tout le monde, effectivement. Puis il va être éteint, ce chaudron, mais évidemment pas le feu sacré, pas la flamme en elle-même. La lanterne, elle va passer la nuit à l'hôtel. Ça aussi, c'est un secret qui est très, très bien gardé, ouais. Vous l'imaginez bien. Et demain, cette flamme va être rallumée, en quelque sorte, à notre Dame de la Garde. Alors, ce relais de la flamme, généralement, ça va être un département par jour. Demain, c'est Marseille à 100%, une ville par jour. Donc ça va commencer à Notre-Dame de la Garde et ça va être un relais de la flamme très 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 orienté olympique de Marseille, puisque c'est Basile Boli, icône évidemment du club marseillais, qui sera le premier relayeur. Donc à Notre-Dame de la Garde, il y aura des relais du côté du Faro, de la Marina, de la Cité Internationale également. Et puis le chaudron sera rallumé demain soir au Vélodrome, autre clin d'œil à l'OM, par une autre icône évidemment du football marseillais, en l'occurrence Didier Drogba. Donc journée très marseillaise encore pour la flamme, très olympique de Marseille, ça tombe bien puisque l'OM joue demain soir un match très important, vous le savez, demi-finale retour de Ligue Europa. Ça sera pas à Marseille cette fois-ci, mais du côté de l'Atalanta Bergame.
Voilà, mais c'est plutôt bien fait tout ça. Il y aura aussi, tiens, je le note, une dame qui s'appelle Colette Cataldo. Elle a 82 ans, elle est supportrice de l'OM depuis 60 ans et elle aussi elle porte la flamme, et ça a du sens pour les Marseillais. Merci beaucoup, merci vraiment à tous.
Si vous avez aimé ce podcast, vous allez adorer toute une sélection d'émissions de Radio France sur les Jeux Olympiques, pour continuer à faire les Jeux avant les Jeux. Autour des Jeux, ce sont des podcasts à écouter sur l'appli Radio France ou sur le site radiofrance.fr.